Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Toujours en pleine forme. Moi je vous trouve vraiment resplendissante, dynamique et voilà, prête pour cette émission. Vous vous en délectez à l'avance, c'est vrai ou pas ?
Oh oui, c'est vrai, c'est que là, ça va rejoindre vraiment mes deux passions, finalement, l'art. La mythologie, pour moi, c'est un petit peu de l'art hein, aussi, puisque ça fait partie de l'histoire. Et effectivement, les neurosciences avec comment est-ce que le cerveau, ou les artistes, on va le voir, interprètent effectivement les mythes, les récits mythologiques dans leur art. Donc avec plusieurs périodes, plusieurs types d'artistes, pour expliquer comment est-ce qu'ils se les ont représentés.
Et voilà, une approche particulière de cette neuroscience à travers la mythologie, à travers l'art. Et je pense que là, mesdames et messieurs, vous allez aussi vous régaler et que vous allez surtout apprendre des choses, certainement, parce qu'on est face à un puits de science, disons-le. Revenir déjà sur les classiques, Célia, avec vous.
Alors totalement, alors ce que j'appelle les classiques, c'est finalement, c'est les artistes anciens. Hein, si je puis dire. Alors, petite parenthèse pour les historiens de l'art qui nous écouteraient. Je n'ai pas forcément voulu découper les émissions en termes d'ère, j'allais dire, artistique et de période artistique, mais plutôt en termes dans le temps, pour qu'on puisse évidemment évoluer du passé au présent. Alors, au niveau des classiques, évidemment, on ne peut pas parler de mythologie dans l'art sans parler de la Vénus de Botticelli. Donc, la Vénus de Botticelli, effectivement, elle est sur sa coquille Saint-Jacques, elle est droite, elle est debout, elle est nue, mais toutes ses parties intimes sont cachées soit par ses mains, soit par ses cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Renaissance italienne, Botticelli était donc un peintre de la Renaissance italienne, la manière de représenter effectivement la femme nue n'était pas du tout érotique. C'est d'ailleurs pour cela, ça ne faisait pas partie de ce qu'on appelle de l'érotisme. Il ne s'agissait pas de montrer du nu pour montrer du nu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a caché les parties intimes, mais c'était pour montrer la beauté de la femme. C'est-à-dire même la beauté de l'âme, la beauté de l'esprit, c'était quelque chose de beaucoup plus abstrait qui était représenté finalement par ce corps. Donc Vénus qui est sur sa coquille Saint-Jacques, si on regarde la signification, pourrait signifier effectivement la fécondité, la beauté aussi, quelque chose de doux, la féminité. Et on voit que sur le côté gauche de l'œuvre de Botticelli, on voit qu'il y a deux personnages qui sont en train de souffler. Pourquoi ? Parce que Vénus est née de l'écume de la mer, vient de la mer. Ils sont en train de souffler pour que cette Vénus, finalement, arrive sur Terre. Donc effectivement, à l'époque de Botticelli, c'était la beauté, c'était aussi probablement l'esprit. C'était vraiment ce côté de la femme dans sa perfection. Il faut savoir que Vénus a été maintes fois représentée aussi bien en période antique, en période très classique pendant des décennies, mais aussi elle est représentée, mais nous y reviendrons, au niveau de la période plus moderne et contemporaine. Évidemment, moi qui suis une addicte au peintre Caravage, je ne pouvais absolument pas faire cette partie d'émission sans vous parler de Caravage et de sa méduse. Alors la méduse de Caravage, lui aussi, l'a réinterprétée de manière différente. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde son tableau, qui n'en est pas réellement un, alors ce tableau est à la galerie, comme la Vénus de Botticelli d'ailleurs, ils sont à la Galerie des Offices à Florence. Il faut savoir que Caravage a peint la tête de Méduse sur un bouclier. Et pourquoi est-ce qu'il a peint sur un bouclier? Il a interprété comme cela. Pourquoi? Parce que dans le récit mythologique, Persée tue Méduse grâce au bouclier réfléchissant qui était finalement avec une face dorée, lumineuse, dans laquelle la tête de Méduse pouvait se refléter, au bouclier qui avait été donné par Athéna. Pourquoi ? Parce que, d'après le mythe, quiconque croisait le regard de Méduse était pétrifié. Donc il a voulu utiliser ce bouclier, cette notion-là de peindre la tête de Méduse sur ce bouclier-là. Il n'a pas choisi des couleuvres, mais lui, il a choisi des vipères autour de la tête. Donc ça, il n'y a pas forcément d'explication, mais il a décidé, c'était son propre choix. Et si vous regardez bien, je vous encourage à aller voir effectivement la tête de Méduse, enfin la représentation de Méduse par Caravage. On voit qu'il y a du sang et ce sang-là est bien bien rouge. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est bien rouge? Parce que finalement, ça va représenter la tête coupée qui vient d'être coupée comme à l'instant. Hein, les yeux exorbités, etc. Comme si elle venait d'être coupée à l'instant. Et on a pratiquement l'impression de voir percer avec sa tête de méduse à la main. Finalement, allant la présenter à son roi, à ses dieux, effectivement, de manière totalement triomphante. C'est comme cela qu'a décidé de se représenter Caravage, comment il l'a réinterprété. Alors, c'est vrai qu'on va le voir encore en poursuivant cette notion chez les classiques au niveau de la représentation des récits mythologiques. Les classiques, on va dire qu'ils sont restés très, très pragmatiques dans la représentation. Je représente le mythe de cette manière-là. Il y a moins peut-être... Je dis moins peut-être, et j'insiste sur le peut-être, d'interprétation possible, de réinterprétation possible du mythe, tel qu'on le verra en deuxième et troisième partie d'émission, avec finalement la période un peu plus moderne et la période totalement contemporaine. Alors, effectivement, si on compare par exemple en revanche la tête de Méduse à celle au tableau de Méduse peint par Rubens, on voit que c'est totalement différent. Celle de Rubens, de Méduse, elle est au fond de la mer, donc déjà décapitée, il n'y a pas forcément de rapport triomphal. Elle est beaucoup moins colorée, c'est pas le terme, mais elle est beaucoup moins flashy au niveau des couleurs beaucoup moins chaudes. C'est-à-dire, on a l'impression, lorsqu'on regarde ce tableau, que la tête de Méduse, finalement, périt au fond de la mer, comme une épave, et qu'on peut, c'est ce qu'on verrait peut-être de nos jours, si on retrouvait la tête de Méduse au fond de l'eau et qu'on ferait de la plongée sous-marine. Et on voit des petits animaux autour, des petits scorpions autour de la tête de Méduse. C'était finalement à l'époque de Rubens une manière aussi de représenter dans les tableaux. Il représentait, il mettait beaucoup de ce type d'animaux. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tous les cas, moi je n'ai pas la réponse à cette question. Mais effectivement, c'est ce qui pouvait se faire. Suite à cela, on a aussi, toujours de Rubens, Icare. Rubens a peint effectivement aussi la chute d'Icare. Et cette chute d'Icare, il va finalement intégrer le spectateur, si je puis dire. C'est la personne qui va regarder le tableau, vous allez être tous intégrés au tableau. Et par son jeu de couleurs, vous allez focaliser votre attention au centre du tableau. Pourquoi ? Au centre du tableau, il va y avoir la réelle chute d'Icare. Donc Icare représenté avec la tête en bas, en train de chuter parce qu'il s'est brûlé les ailes en voulant aller trop par orgueil. Notamment, c'est pas forcément la seule explication du mythe d'Icare, mais disons que c'en est une, évidemment, en tous les cas dans le tableau c'était cela, et les ailes blanches, la cape rouge et un ciel très chaud avec des couleurs très chaudes, voire orangées. Et de ce fait là, ça focalise l'attention avec une idée de drame qui est en train de se dérouler, alors que bah, finalement, si on regarde les autres coins du tableau, on voit la mer en bas, on voit même, je crois, un petit bateau, on voit finalement quelque chose de, on va dire, comme une plénitude, donc il y a un contraste entre les deux, et finalement, lui, il a voulu représenter quoi ? Bah, le fait que, est-ce qu'Icare pouvait échapper à son destin ? Est-ce qu'il était encore maître de son destin ou pas ? Et finalement, est-ce que la condition humaine, c'est pas forcément de subir et qu'on n'est pas déjà peut-être conditionné comme lui l'était, ne serait-ce que par les fautes de son père, puisqu'on sait que s'il s'est retrouvé dans cette situation, c'est que Dédale avait contrarié Minos, hein, puisque il y avait eu entre Pasiphae, la femme de Minos, et un taureau, la naissance donc du Minotaure, et Minos a découvert que Dédale était au courant des amours secrètes de sa femme, donc il a enfermé le pauvre Dédale avec son fils qui n'avait rien fait, dans le labyrinthe, évidemment, créé par Dédale lui-même. Donc voilà ce que l'on peut voir, comment est-ce qu'eux, ils ont interprété, mais ces mythes, ils se sont représentés pour, justement, peut-être, là aussi, comme on l'avait vu dans les émissions sur la mythologie, savoir ce que nous enseigne la mythologie, répondre à des questions existentielles. Et dernier point que je voudrais ajouter, je parle beaucoup de peinture, mais il n'y a pas que dans la peinture, dans l'opéra de Wagner, là aussi, on va retrouver des références, effectivement, notamment dans son opéra Le Crépuscule des Dieux. Ne me demandez surtout pas de vous le chanter ou de siffloter l'air, on serait mal barré, je vous l'assure.
C'est la question pourtant.
Eh ben, ça va pas être possible, parce que je voudrais pas faire grêler ou neiger alors que nous sommes, voilà. pas encore en période totalement estivale, on va dire, hivernale. Et pourtant, ça approche. Mais c'est vrai qu'on retrouve des références. Son opéra fait référence à la mythologie nordique. Alors, c'est pas la mythologie que l'on connaît le mieux, effectivement, en France. Nous, on est plutôt mythologie grecque, voire romaine, et peut-être égyptienne. Mais effectivement, il y a des références. Donc, ce ne sont pas que les peintres, mais tous les artistes se sont appropriés les mythes pour en faire une œuvre et les réinterpréter à leur manière.
Voilà, vous êtes parti, c'est-à-dire on sent habité, mais c'est fou, hein, vous n'avez pas l'image, mais moi je l'ai, elle est là, elle raconte, elle le vit, on voit les tableaux et nous, ça nous donne envie forcément d'aller les voir dans les musées, comme ça, avec cette explication. Vous savez ce que vous faites, vous allez dans le musée. Ils sont où ces œuvres principalement là? Ils sont
À Florence. À la galerie. Alors pour ce qui est du Botticelli et du Caravage, ils sont à Florence au niveau de la... comment dire, de la galerie des Offices. Voilà,
voilà pour les premières à droite quand vous arrivez à côté des... Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez la possibilité d'y aller, vous mettez le podcast de cette émission et comme ça, vous allez avoir l'analyse. Et ce sera, voilà, vous aurez le son, la vue, vous aurez tout. C'est magique. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour continuer de parler de mythologie dans l'art. Vous avez été assez éloquente sur les classiques. Qu'en sera-t-il sur les modernes? C'est dans un tout petit instant sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Le docteur en neurosciences, Célia Morès. Alors, il y en a qui disent, mais elle a pété un plomb, Célia. Attendez, là, on en est où, là? Comment ça, la sphère neuro, c'est quoi le lien, la mythologie dans l'art? Alors, c'est quoi le lien, Célia, déjà? Le lien.
Le lien, déjà, c'est que bon, je m'étais intéressée à la mythologie, aux neurosciences. Et puis là, pourquoi dans l'art? C'est dans la tête d'un artiste. Comment, finalement, les artistes vont utiliser les mythes anciens pour se les réapproprier par rapport à notre ère moderne, contemporaine, puisqu'on sait que bon, on évolue, les choses évoluent, mais finalement, dans le passé, on retrouve des éléments qui peuvent nous aider. On avait fait justement une émission sur qu'est-ce que la mythologie peut nous apporter de nos jours, et c'est un petit peu ça. Les artistes vont se servir pour refaire passer un message, réinterpréter un message, en tenant compte finalement de ce qui se passe totalement aujourd'hui. Et je pense que c'était important de faire cette notion-là dans la tête d'un artiste. Comment un artiste interprète? Pourquoi l'artiste va mettre cela en avant? Qu'est-ce qui fait que finalement, le même mythe va être représenté différemment selon l'artiste et selon l'époque? Parce qu'il ne va pas lui-même en avoir la même perception.
Et voilà, on est dans la tête des artistes. Et c'est donc la neuro, voilà, la sphère neuro, parce qu'on y est là et on se met à la place. Alors peut-être mieux faire ça que un footballeur, par exemple. Non, pardon. Bon, allez, on parle des... Après, les classiques, bon, c'est gratuit, c'est pas grave, c'est pour faire un petit jeu de mots. Mais non, parce qu'il y a des footballeurs qui sont hyper... voilà, d'ailleurs, il y a des footballeurs qui sont artistes, qui peignent aussi.
Effectivement.
Bon, c'est pas le sujet. Donc, vous avez fait... c'est hyper mal à l'aise, elle dit, mais non. Pourquoi il a dit un truc un peu méchant comme ça? Mais c'était pas méchant, j'adore, voilà, en plus.
Moi, c'est pas méchant, c'est...
Oui, c'est un petit...
J'ai une méchante moi aussi.
C'est un petit tac. Bon, on a vu les classiques. Moi, j'adore hein, les périodes classiques. Maintenant, les modernes.
Alors, totalement. Au niveau des modernes, alors, c'est pas forcément l'art moderne, la période d'art moderne. Donc là, je m'adresse aux historiens de l'art. J'en suis désolée, mais pour moi, les modernes, effectivement, j'ai mis, on va dire, des artistes un peu plus de notre époque. Alors, on va citer évidemment Brancusi, on va citer Francis Bacon, on va citer aussi Cézanne. Bien évidemment, eux aussi ont utilisé les mythes et représenté les mythes. Alors, on va commencer par Cézanne, qui a peint notamment un tableau qui s'appelle Léda et le cygne. Léda et le cygne, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire de Léda qui tombe amoureuse du cygne, enfin du moins le cygne, on va dire, elle est drague bien Léda, en tous les cas, s'approprie Léda, hein, le cygne, il faut savoir que c'est Zeus quand même. Et effectivement, Léda craque et il va y avoir un enfant qui va naître de cette union-là, qui n'est autre que la belle Hélène, la fameuse Hélène de Troie, celle qui par qui finalement la guerre de Troie arrive. Donc, lorsqu'on regarde le tableau de Cézanne, on voit notre Léda qui est donc nue, Donc là, on voit ses seins, etc., avec ses cheveux longs, nus, qui est à moitié allongé, un petit peu comme on le serait, vous savez, sur une méridienne. Le cygne à côté d'elle et le cygne qui a finalement dans son bec la main de Leda. Donc là, ce que l'on peut se poser comme question, c'est que c'est assez violent, ce cygne qui a la main de Leda dans son bec. C'est, est-ce que ça ne laisse pas présager les malheurs qui vont arriver, puisque cette union, hein, Leda était quand même une femme mariée, cette union contre nature, cet adultère n'aurait pas dû avoir lieu, et que finalement va en découler, avoir des conséquences tragiques que l'on connaît d'après l'histoire en mythologie, qui est la fameuse guerre de Troie. En plus, on voit Leda, si on regarde bien ses yeux, je vous encourage à aller voir le tableau, Leda et le cygne de Cézanne, on voit une espèce de tristesse, comme si déjà, dans son regard, elle pressentait que quelque chose de mauvais allait arriver. Donc là aussi, dans un seul tableau, une représentation simple, finalement, de Leda et le cygne, comment est-ce qu'il se l'est représenté, on sent toute la violence, finalement, de l'après. L'après-acte qu'il y a eu, l'après-adultère, si je puis dire, entre Leda et le cygne, effectivement, ce qui va se passer et les conséquences que cela peut avoir. Brancusi, lui, ce sont plutôt des sculptures, donc il y a deux sculptures sur lesquelles j'aimerais finalement faire un focus. C'est justement sa représentation de Leda. Alors lui, pour comprendre que c'est Leda, il y avait eu d'ailleurs l'exposition Brancusi au Centre Pompidou à Paris pour comprendre que c'est Leda. Sans les explications, on ne peut pas le comprendre parce que la sculpture est dorée et elle est comme en deux parties. Donc il y a un ovale en bas et en haut il y a une espèce de cône, on va dire, si je puis dire, pour représenter graphiquement pour que vous puissiez vous l'imaginer. Mais sinon, je vous conseille d'aller voir, de taper Leda sur votre moteur de recherche.
Espèce de cône, excusez-moi.
Comme ça.
Ah oui, pardon.
Et effectivement, voilà, oui, conne, ouais. Pas avec deux N.
En fait, Célia, elle est tellement dans son truc qu'elle ne sort même pas compte du truc. Elle parle naturellement. Bon, je me suis dit, je vais peut-être pas la faire celle-ci, mais si, il faut.
Il fallait la faire, mais effectivement, j'aurais dû m'en rendre compte, mais non. Et effectivement, pourquoi? Parce que lui, Brancusi, il a voulu finalement se représenter le mythe de Leda et le cygne avec finalement le torse d'une femme qui se fond dans celui de dans l'animal. Donc c'est une espèce de fondu entre le torse de la femme Leda et l'animal qui est représenté totalement graphiquement finalement, et on voit plus du tout que c'est une femme ni un animal. Et en plus, pour Brancusi, il se refusait à croire que les cygnes étaient masculins. Allez savoir pourquoi. En tous les cas, c'est une des réflexions qu'il avait fait avec une de ses connaissances, où pour lui, il avait du mal à croire que le cygne était masculin. Ensuite, on a évidemment Francis Bacon, là aussi, sur Francis Bacon, hein, qui est un peintre qui est mort dans les années 1990-12, je crois, et qui fait, vous savez, ses peintures avec finalement des formes parfois un petit peu difformes, on n'arrive pas trop. Enfin, c'est pas bien structuré, je devrais pas dire ça, mais en tous les cas, c'est un aspect un petit peu plus fondu, un peu plus, moderne. Et effectivement, effectivement, Francis Bacon, lui, s'est réapproprié le mythe, finalement, d'Œdipe. Il a peint Œdipe et notamment la scène d'Œdipe avec le sphinx. Et effectivement, là encore, si on nous le dit pas, c'est peut-être dur de savoir que c'est ce type de représentation-là, parce qu'il s'est réapproprié, effectivement, ce mythe-là, de manière différente. Donc on voit bien, effectivement, comment est-ce que ces artistes se réapproprient le mythe, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre, et en une seule image, ils nous transmettent, finalement, les conséquences de l'action du mythe, c'est-à-dire, bon, par exemple, pour Leda et le cygne, les conséquences de cet adultère, les conséquences, effectivement, là aussi, pour Brancusi, qui a peint aussi, j'en ai pas parlé, les Danaïdes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'œuvre de Danaïdes de Brancusi, c'est juste une tête qui est noire et dorée, notamment. Il n'en avait pas qu'une, hein, qui est noire mate et dorée patinée. Et c'est juste une tête. Et on ne pourrait pas savoir pourquoi, parce que pour lui, c'est les Danaïdes. Pour lui, ça représentait les Danaïdes, parce qu'il faut savoir que Brancusi s'est beaucoup, beaucoup inspiré de la mythologie. Et finalement, pourquoi cette tête-là? Parce que c'était des femmes. Alors, il faut savoir que Danaos avait 50 filles. Il était fâché avec son frère Égyptos, qui avait 50 garçons. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont réconciliés à condition que Danaos donne ses filles au fils d'Égyptos.
Ça ne coûtait pas trop cher en allocation familiale, c'est tout ?
Ben, à l'époque, ça n'existait pas, je crois qu'heureusement, parce que ça aurait été très, très, très compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Danaos accepte de donner ses filles à Égyptos, au fils d'Égyptos. Sauf que par un oracle, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup de consulter l'oracle pour savoir ce qui allait se passer, pour consulter l'avenir, il apprend que les fils d'Égyptos comptaient tuer ses filles, c'est-à-dire tuer les Danaïdes, les filles de Danaos. Donc, il en parle à ses filles. Les filles devant s'est tuent elles-mêmes, les fils d'Égyptos. Et donc, du coup, elles vont être condamnées à faire quoi ? Le fameux tonneau des Danaïdes, ça vient de là. Elles vont être condamnées, tout simplement, à verser de l'eau du Styx dans une jarre sans fond, pas avec une cruche percée. Autrement dit, elles n'arriveront jamais, évidemment, à remplir la jarre. Bah pour Bancusi, ce mythe-là, alors il y en a qui l'ont représenté probablement autrement, il a représenté les Danaïdes simplement par le tête, une sculpture d'une femme. Mais là encore, sans les explications de la commissaire d'exposition, sans l'explication d'une historienne de l'art, on n'arrive pas à comprendre que cette œuvre-là, ça représente les Danaïdes. Moi, j'ai réussi évidemment à avoir cette information parce que j'ai pu suivre une visite commentée et je me suis rendu compte de l'importance finalement de la mythologie dans l'œuvre de Brancusi et comment finalement il se l'était réapproprié avec ses propres idées, sa propre manière de penser en rendant finalement le mythe totalement plus moderne parce que pour lui, sa sculpture représente le mythe des Danaïdes.
Vous savez, j'aurais bien. C'est passionnant. Et est-ce que Dali, par exemple, être dans la tête de Dali, c'est d'autre aussi quelque chose en termes de neurosciences ?
J'aurais bien aimé pouvoir effectivement échanger avec Dali, parce qu'il a peint pas mal d'œuvres justement liées à la mémoire, notamment les montres molles. Hein, et j'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce qu'il avait fait ce type de représentation-là pour représenter la mémoire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de discuter avec des artistes. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et c'est vrai
déjà
que...
Déjà, vous parlez avec moi, déjà.
Je veux parler avec vous, mais pas...
N'importe quoi, c'est énorme, je plaisante,
mais... allez-y. Mais effectivement, non, c'est vrai que quand on parle avec des artistes et que chaque artiste est différent, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils se représentent les choses. Parce que finalement, nous, quand on voit une œuvre d'art, on va l'interpréter à notre manière par rapport à notre propre perception. Mais eux, ils ont leur perception, ce qu'ils ont voulu montrer. Et la dernière fois, je parlais avec un artiste justement contemporain et je lui demandais, mais là, j'aimerais bien que tu m'expliques ton œuvre, justement, puisque... Et il m'a dit oui, alors il explique un petit peu, puis il me dit, mais parfois, il ne faut pas forcément donner une relation trop intellectuelle. C'est aussi, et ça c'est important en art, c'est aussi le ressenti. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir une représentation d'une œuvre, même d'un mythe, finalement, c'est ce que nous, on va ressentir. Comment est-ce que nous, on va ressentir l'œuvre ? Comment est-ce qu'on va s'apprivoiser cette œuvre-là ? Et qu'est-ce qu'on va en faire par rapport à notre connaissance du mythe et par rapport à la représentation que nous sommes en train de voir ? Probablement que peut-être, tout à l'heure, je parlais de Leda et le Cygne peint par Cézanne, peut-être que d'autres personnes verraient les choses autrement. Moi, je me suis référée finalement aux explications des historiens de l'art quand même, puisque j'ai voulu mêler neurosciences et vraiment interprétation artistique, mais l'essentiel finalement c'est ce que nous on va ressentir, ce que l'œuvre va nous faire ressentir par rapport à nos propres références culturelles et nos propres références personnelles.
Voilà, donc nous notre ressenti il est tout aussi valable que celui d'un historien, c'est ce que vous voulez dire ?
Alors oui non, c'est-à-dire oui dans le sens où il y a pas de notre ressenti est important, ce qui compte dans l'art c'est les émotions que l'on va ressentir. Après effectivement au niveau des historiens, il y a quand même l'interprétation, ce que l'artiste a voulu dire qui est importante parce que certains des historiens ont quand même pu interroger l'artiste, discuter avec l'artiste, ce sont des discussions avec l'artiste et ce n'est pas une interprétation forcément de l'après-coup en disant je pense qu'il a voulu dire ça.
C'est comme vous, là, par exemple, vous avez discuté avec cet artiste contemporain dont vous ne taisez le nom pour l'instant. On va revenir d'ailleurs sur les artistes contemporains et leur analyse. On fera ça la semaine prochaine, parce que là, on est un peu débordé. Célia, on va s'arranger, vous inquiétez pas, on va faire ça la semaine prochaine. Mais du coup, là, cette conversation que vous avez eue avec lui, il vous a expliqué. Ça, c'est là, vous êtes en train de devenir historienne de l'art. Parce que voilà, dans quelques années, il y aura votre interprétation qui est surtout due à ses explications.
Alors, je suis pas sûre que je devienne historienne de l'art parce qu'il faudrait vraiment que je potasse, comme on dit, l'histoire de l'art. Mais effectivement, je trouve que les liens entre art et neurosciences sont très très importants et l'interprétation, en fait, qu'un cerveau d'artiste réalise pour justement réaliser son œuvre. Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour pouvoir avoir finalement réalisé sa sculpture, réalisé son tableau, réalisé sa photographie, réalisé effectivement son film, réalisé sa musique, etc., etc. Je pense que c'est un point capital de nouveau.
On fera la partie des artistes contemporains parce que c'est aussi important. La semaine prochaine, d'ici là, cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de 18h ce dimanche. Ça va, Célia, je ne vous ai pas contrarié parce que normalement, c'était prévu dans cette émission, mais là, vous avez été tellement, loquace qu'on a un tout petit peu débordé. Ça vous va la semaine prochaine?
C'est parfait pour moi.
Bah oui, on s'adapte. Hein, c'est... Puis, vous savez, vous allez vous dire, mais oui, mais est-ce qu'on pourra faire une émission? Mais je suis persuadé que vous pourriez même en faire 10 encore, rien que sur les artistes contemporains. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.